Le titre de mon message aujourd'hui, la montée à Sion. Nous allons voir que dans la parole, il y a 15 psaumes qui sont intitulés psaumes des degrés ou psaumes des montées et qui nous parlent de la montée vers Sion, cette petite colline qu'on appelait Sion. Ces psaumes commencent au psaume 120 jusqu'au psaume 134. Et à partir du psaume 120, on va lire le verset 1 et 2, le premier psaume des montées, cantique des degrés des montées. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Les psaumes des montées commencent par une détresse. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie. Et il m'exauce. Pourquoi la montée vers Sion commence-t-elle par une détresse? Et d'abord, qu'est-ce que Sion? C'est quoi Sion? Comment on peut définir Sion? C'est une montée, c'est un chemin. C'est comme une place à se rendre. Mais c'est aussi l'image de personne. Psaume 125, verset 1. Cela nous dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Sion, c'est aussi ceux qui se confient en l'Éternel. Pour marcher sur ce chemin vers cette montagne de Sion, il faut se confier en l'Éternel. Psaume 125, le verset 4, Éternel. Répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Sion, ce sont ceux qui se confient en l'Éternel, qui ont un cœur bon et honnête, et dont le cœur est droit. Exactement comme la parabole de la bonne semence que le Seigneur a donnée. Seuls ceux qui sont de la bonne terre, qui ont un cœur honnête et bon, produisent du fruit. Sion, c'est ceux-là qui produisent du fruit, ceux-là que Dieu connaît d'avance et qu'il amène lui-même à produire du fruit. Mais on voit que pour que Dieu prenne un de ses enfants qui vient de venir à lui et l'amène à porter du fruit, il y a un chemin. C'est ce qu'on appelle le chemin de Sion, la montée à Sion. C'est la montée de la transformation pour paraître devant Dieu à Sion. Car Sion, c'est aussi le lieu où Dieu réside, comme on va le voir tout à l'heure. C'est le lieu de la présence de Christ. C'est le lieu choisi par Dieu où la présence de Dieu se manifeste pour les siens. Mais avant que la présence de Dieu puisse se manifester, il y a comme un long cheminement, un sentier à suivre, dans lequel il y a beaucoup de détresse. Beaucoup d'épreuves, une sorte de passage au désert, où Dieu fait de nous, comme je l'avais déjà dit, une beauté parfaite. Psaume 50, versets 1 à 5. Dieu l'Éternel parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite. Dieu resplendit. Dieu veut faire de nous une beauté parfaite, afin que sa présence puisse resplendir au milieu de nous. Il vient, notre Dieu, au verset 3, il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Sion, c'est le rassemblement de ses fidèles qui ont mis toute leur confiance dans le sacrifice. Non plus en eux-mêmes, en leur propre justice, mais dans le sacrifice de Christ à la croix. La seule place où Dieu peut nous rencontrer, comme je l'ai déjà dit, à l'autel. C'est le lieu de rencontre de Dieu avec nous, c'est l'autel. C'est la place où Christ a versé son sang. Son sang est un chemin pour entrer dans la présence, dans sa présence, dans la présence du Père. C'est la porte d'entrée. C'est le sacrifice. Donc, pour monter à Sion, il faut passer sur ce chemin. Ou, comme dira l'apôtre Paul en Philippiens, ce sont ceux qui ne se confient pas dans la chair, qui ont mis tout leur espoir en l'Éternel, en Jésus-Christ, et qui marchent selon l'Esprit, non selon la chair. Ce chemin pour monter à Sion est un chemin d'épreuve, de tentation, de test, de transformation, de promotion, où Dieu veut faire de nous ce qu'il a prévu de faire avec nous. On voit au psaume 124, le verset 2 à 8. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme, alors auraient passé sur notre âme des flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ce psaume nous parle que Dieu permet un filet sur les siens, non pas pour nous détruire, mais un filet comme pour passer au travers. Pour passer au travers de ce filet et abandonner tout ce qui dans notre âme est encore de la chair, encore du diable, encore égoïste, encore orgueil. C'est comme si Dieu permet ce filet pour nous purifier, nous laver, nous assagir, nous sanctifier. C'est pour nous détourner de nous-mêmes, de notre âme, de tout ce qui vient de nous, pour nous tourner résolument et mettre toute notre confiance juste en lui. Une confiance placée seulement en lui, où il n'y a plus de confiance en soi-même, où le moi est emmené à la croix, emmené à la mort, où notre âme est emmenée à la mort. Il y a comme un dépouillement de soi-même qui se fait. Éphésiens chapitre 4, le verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Cela nous parle du dépouillement, le chemin du renoncement à soi-même, la mort à soi-même, la mort dans l'âme. Parce que pour paraître devant Dieu à Sion, notre âme ne doit plus être dans le chemin. Notre âme et tout ce qui est personnel, charnel, égoïste, doit disparaître pour laisser la place à son âme, à sa présence, à sa direction, à sa sagesse, à sa force. C'est lui qui doit agir au travers de nous. Il faut que tout ce qui est de nous disparaisse. Comme disait Jean-Baptiste, il faut que je diminue et qu'il croisse, que tout ce qui est en moi diminue, que mon âme ne soit plus dans le travers du chemin de Dieu. C'est pour ça qu'il y a un filet que Dieu permet dans notre vie. Un filet pour qu'on abandonne nos bagages de notre ancienne vie, les bagages du diable, les bagages que le diable a laissés dans notre âme, qui sont quoi? Convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. C'est le bagage du monde, le bagage qui sont profondément ancrés encore au niveau de notre âme et que la parole de vérité va enlever. Si on continue à lire Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 23, « Et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La vérité de la parole de Christ, la vérité de l'Esprit de Dieu, va produire en nous une justice et une sainteté. Elle va produire un dépouillement, une sanctification. La vérité va aller profondément dans notre âme, va creuser et enlever toutes ces racines de convoitise et d'orgueil qui s'y cachent, et que nous ne sommes souvent même pas conscients. Ils sont cachés là, Dieu les voit, et c'est pour ça que Dieu veut permettre le désert, l'épreuve, l'humiliation, pour enlever ces choses-là dans notre vie, dans notre âme. Parce qu'il faut bien savoir que lorsque nous venons à Jésus, notre esprit est entièrement nouveau. Notre vieil esprit est jeté à la croix, nous y mourons, cet esprit-là meurt à la croix, et nous recevons un nouvel esprit qui est comme à l'image de Christ. Mais cet esprit-là est encore un bébé. Et notre âme, elle, est lavée. Elle est purifiée par la parole de vérité. Cela commence un processus sur notre âme, de jour en jour, de se laver dans la parole de vérité. Et c'est le processus que le Saint-Esprit engage avec nous pour nous entraîner, nous faire monter à Sion. Nous n'avons pas le choix, il nous faut passer par cela. C'est super important. Parce que sans ça, Dieu ne pourra pas parfaire en nous sa beauté. Il faut qu'il nous fasse passer au travers de cela pour faire son travail de justice et de sainteté que produit la vérité. Et l'apôtre Paul va continuer, Éphésiens chapitre 4, le verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Renoncez au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, et communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est tous les résidus de notre ancienne vie au niveau de notre âme. C'est ces choses-là que le Saint-Esprit va nous emmener au travers du désert à abandonner, à renoncer. Il va nous faire passer au travers d'un filet pour que nos bagages de la chair, nos bagages du monde, qu'on les abandonne, qu'on s'en dépouille, qu'on se dépouille du vieil homme et qu'on revêt le nouvel homme créé à l'image de Christ. C'est un chemin de transformation de gloire en gloire par la puissance de l'Esprit. Nous avions été capturés par le prince de ce monde. Le prince de ce monde avait emmené captif notre âme. Et quand nous venons à Jésus, nous sommes libérés. Notre esprit complètement changé, transformé. Mais notre âme, elle a besoin de suivre tout un processus de transformation. Parce qu'il y a des choses cachées profondément, que le diable a mis, semées profondément. Il faut que le Saint-Esprit enlève ces choses-là. Le psaume 126, verset 1, qui est aussi un psaume de la montée. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, Sion passe par un temps de captivité, un filet. Pas pour la détruire, pour la purifier. Un temps d'humiliation pour l'amener à être à l'image de Christ, un cœur doux et humble comme celui de Christ. C'est difficile, ça jette comme une captivité sur notre âme. David disait, il y a comme un filet sur mon âme. C'est notre âme qui est mise dans le désert. Parce qu'on doit renoncer à nous-mêmes, à notre âme. Tout ce qui est du niveau de l'âme, de notre propre intelligence, de nos propres sentiments, de notre propre volonté, on doit renoncer à marcher et à être dirigé par notre âme. Nous devons apprendre à être dirigés par l'Esprit de Dieu seulement. Et ça, c'est un long processus. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Mais Dieu soit loué. Dieu, le Saint-Esprit, nous a pris en charge dès le moment où nous naissons de nouveau. Et si nous acceptons de marcher sur ce chemin du renoncement, il va nous conduire. Il va nous prendre par la main. Il va nous emmener sur ce chemin-là. Et il vient un jour où Dieu nous libère de la captivité au niveau de notre âme. Et nous pouvons entrer en Sion. Il dit au verset 2, psaume 126, « Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. » Comme des ruisseaux dans le midi. Il y a quelques semaines, le Seigneur m'a donné un songe et je voyais comme des ruisseaux, deux magnifiques ruisseaux qui coulaient au travers d'un pont au sud de notre emplacement ici. C'était des ruisseaux pleins de vie, des ruisseaux d'une beauté, d'une eau claire. Quand j'ai lu ce verset-là, « Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi », j'ai compris que Dieu est en train de nous dire c'est cela qu'il s'apprête à faire au milieu de nous. Il s'apprête à ramener les captifs de Sion, à ceux qui ont été pendant des années dans le désert, dans l'humiliation, dans l'épreuve. Consolez Sion. C'est le temps de consoler Sion, de lui dire, ce n'est pas en vain que tu as passé ce désert. Il y avait un but. Tu t'emmènes, tu t'approches de Sion. Tu t'en vas vers Sion, où la présence de Christ va se manifester de façon puissante. Te restaurer, te renouveler entièrement. Psaume 128, le verset 5, cela nous dit, « L'Éternel te bénira de Sion. » À partir de Sion, il va te bénir. Et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils. Que ta paix soit sur Israël. Psaume 129, au verset 1, « Cantique des montées, ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Qu'Israël le dise. » Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé des longs sillons. L'Éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants, qu'ils soient confondus et qu'ils reculent, tous ceux qui haïssent Sion. L'Éternel permet, depuis notre jeunesse spirituelle, il permet des laboureurs de venir semer des longs sillons dans notre âme, de creuser profondément. Dieu permet de ressortir les choses cachées de notre âme, les convoitises qui sont encore présentes, l'orgueil qui subtilement se cache là et dont nous ne sommes pas conscients. Il permet ces choses de venir dans notre vie, des sillons, des laboureurs qui viennent, mais c'est pour notre bien. C'est pour que sa parole descende profondément, parce que seule la parole qui descend profondément dans une terre profonde porte du fruit. Celle qui reste en surface superficielle ne porte pas de fruit. C'est pour ça que Dieu permet l'épreuve, le désert dans notre vie. Bénissons Dieu pour ce désert. Réjouissons-nous, comme disait l'apôtre Jacques, dans toutes les épreuves, parce que c'est là notre joie, c'est là notre paix. C'est là que Dieu parfait en nous une beauté. C'est là que Dieu nous affermit à son image et qu'il nous fait participer à sa sainteté, qu'il nous fait participer à sa gloire. C'est là qu'il veut manifester sa présence. Il nous fait passer au travers de ce labour, de ce filet, pour que la parole descende, la parole de vérité descende dans notre âme, de plus en plus profondément. Qu'elle enlève toute trace, toute résidu de l'ennemi, toute trace que le monde a laissée, toute pourriture du monde, toute confiance en soi. La confiance en soi ne peut pas paraître devant Dieu. Il n'y a rien en soi de s'enorgueillir. Jérémie disait, « Celui qui va se glorifier de me connaître, de connaître que l'Éternel est celui qui exerce le droit, qui exerce la bienveillance, la justice sur la terre. » C'est l'Éternel, pas moi, l'Éternel. C'est l'Éternel qui sauve, pas moi, l'Éternel, pas l'homme. Dieu veut enlever en nous toute confiance en soi-même et dans l'homme aussi. C'est ce chemin d'épreuve, de détresse, d'humiliation, dans lequel Dieu nous fait passer pour nous emmener à Sion, dans sa présence. C'est comme un travail de labourage profond que Dieu fait. Le prophète Osée nous en parle aussi de ce travail. Osée chapitre 10, le verset 12. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne lui-même, ça c'est Sion, et répande pour vous la justice. Mais ça commence où? Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau, creusez dans votre vie. Permettez au Saint-Esprit de venir creuser dans votre vie, de labourer, d'enlever toutes les racines d'épines, toutes les racines de soucis de ce monde. Dieu ne veut pas des épines. Il va les combattre, ça nous dit dans Isaïe. Il va combattre tout ce qui est soucis, plaisirs du monde, richesses de ce monde, qui sont axés sur ce que le diable donne. Dieu veut nous donner beaucoup mieux, beaucoup plus. C'est pour ça qu'il faut qu'il enlève ces fausses confiances dans les plaisirs de ce monde, dans les soucis de ce siècle, tout basé sur nous-mêmes, notre force. Il veut enlever ça. Il veut enlever les pierres de notre vie. Ces pierres qui empêchent la parole de descendre profondément. Les pierres de l'incrédulité. Il veut enlever les pierres de la crainte de l'homme qui tend un piège. Dieu veut enlever toutes ces choses-là de notre vie. Osée, chapitre 13, versets 5 à 8. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. Dieu parle de ça à Israël. Je t'ai connu. Dans ce temps-là, quand tu étais dans le désert, je t'ai connu. Là, tu marchais avec moi. Parce que là, je te purifiais. Mais quand il a sorti du désert, verset 6, ils se sont rassasiés dans leur pâturage. Ils se sont rassasiés et leur cœur s'est enflé. C'est pourquoi ils m'ont oublié. Et au verset 7, je serai pour eux, c'est l'Éternel lui-même qui parle, je serai pour eux comme un lion, comme une panthère. Je les épierai sur la route, je les attaquerai comme une ours qu'on a enlevé ses petits, je déchirerai l'enveloppe de leur cœur, je les dévorerai comme une lionne. Je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Dieu permet l'épreuve pour déchirer l'enveloppe de notre cœur orgueilleux, de notre cœur rassasié de soi-même, de notre cœur confiant en soi-même. Dieu ne peut pas supporter devant lui la confiance en soi-même, c'est une idolâtrie. La cupidité, c'est une idolâtrie. L'amour de soi, c'est une idolâtrie. Dieu ne peut pas supporter cela. Pour venir habiter au milieu de nous, et manifester sa gloire comme il veut le faire, il est obligé de nous entraîner sur ce chemin du renoncement. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et au désir de ce monde. C'est l'enseignement de l'apôtre Paul. La grâce de Dieu, ce n'est pas du légalisme, c'est la grâce de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous fait marcher sur ce chemin de renoncement, de gloire en gloire, de transformation en transformation, pour nous emmener dans la présence même de Christ. Mais s'il trouve des chardons, s'il trouve des épines, il va les combattre, il nous dit. S'il trouve de l'orgueil, il va briser. Il va briser tout orgueilleux. Il va briser le cœur orgueilleux. Il va briser l'enveloppe de leur cœur. C'est ce qu'il nous fait avec nous dans le désert. Notre âme a besoin d'être transformé. Quand nous venons à lui, notre esprit est complètement nouveau, on reçoit un nouvel esprit. Mais l'âme, elle est juste lavée. Mais là, à l'intérieur, c'est comme s'il y a toutes sortes de souvenirs, de mémoires, de racines que le diable a mis, qui sont sa pensée à lui, sa façon de voir les choses, sa façon de penser. Ah, il faut que tu travailles, il faut que tu fasses là, il faut que tu obtiennes toutes choses par ta propre force, par ta propre sagesse. Ça, c'est toutes des pensées du diable. Puis le Seigneur est obligé d'enlever toutes ces fausses pensées-là. C'est de la fausseté. C'est des illusions, c'est des mensonges que le diable a semés dans notre vie, dans notre âme. Et nous ne sommes pas conscients qu'ils sont là quand nous venons à lui. Mais Dieu lui en est conscient. C'est pour ça que Dieu commence un long processus dans le désert avec nous pour nous purifier. Parce que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Dieu ne peut pas aimer la façon de penser du monde. Quand il parle du monde, il ne parle pas des gens qui sont dans le monde, il parle de la façon de penser que le diable a placé dans le cœur des gens. Cette façon de penser égoïste, centrée sur soi-même, servir la créature au lieu du créateur, cette façon de penser-là est abominable aux yeux de Dieu. C'est contraire au premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est Dieu qui doit être en premier. Dieu veut prendre toute la place. Il nous a créés pour lui, pour qu'on lui appartienne, pour qu'on soit une épouse pour lui. Toute centrée sur lui, en lui nous avons la vie. Alors il faut tout qui enlève, tout ce qui est en nous, de notre vie. Osée chapitre 7. Versets 10 et 11. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel leur Dieu, et ils ne le cherchent pas, malgré tout cela. Malgré tout ce que Dieu peut permettre pour Israël, ils ne revenaient pas à l'Éternel. L'orgueil endurcit le cœur. L'orgueil nous fait vivre dans l'insouciance, dans une fausse sécurité. Et même lorsque ça commence à aller mal, nous continuons à se donner des airs de sécurité. Nous continuons à nous obstiner qu'on va s'en sortir, qu'on est assez fort, qu'on va s'en trouver une autre manière, une nouvelle solution. Tout centré sur notre propre force. Cette insouciante sécurité, cette autosuffisance, ça fait toute partie de l'orgueil. Et Dieu veut enlever ça dans notre vie. Il veut qu'on apprenne à se confier en lui uniquement. Osée, chapitre 8, versets 2 à 4. Ils crieront vers moi, « Mon Dieu, nous te connaissons, nous, Israël !» Israël a rejeté le bien. L'ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs sans se référer à moi. Ils se sont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront retranchés. L'orgueil nous amène à vouloir se diriger nous-mêmes, à établir nos propres rois, notre propre façon de penser, notre propre sagesse. On consulte pas Dieu, on se consulte soi-même, on consulte l'homme, on consulte le médecin, on consulte les docteurs, les avocats, on consulte les juges. On ne consulte pas Dieu. Ça, c'est l'orgueil. C'est la vanité de ce monde. C'est ce que le prince de ce monde, Satan, a semé autrefois dans notre ancienne vie et qui doit être délogé du milieu de nous. Cela doit partir. C'est pour cela que Dieu va permettre ce labourage de notre vie. Osée 12, versets 9 et 10. Éphraïm dit, « À la vérité, je me suis enrichi. J'ai acquis de la fortune. » Mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit un crime. Ça, c'est l'orgueil. Je me suis enrichi. J'ai acquis de la fortune, mais c'est le produit de mon travail. Au lieu de reconnaître que toute richesse vient de Dieu, et que c'est Dieu, que s'il y a une richesse, c'est Dieu qui l'a permis, c'est Dieu qui l'a donné. Non. J'ai acquis de la fortune et c'est entièrement le produit de mon travail. Combien de chrétiens aujourd'hui se vantent? Je suis devenu riche, j'ai travaillé fort. Je ne suis pas comme le frère pauvre à côté qui me méprise parce que lui, il n'est pas aussi sage, il n'est pas aussi brillant pour se faire de l'argent, il n'a pas aussi tant de capacité pour se faire de l'argent. J'ai acquis de la richesse par ma propre force, mon travail, j'ai travaillé fort. C'est de l'orgueil. Au verset 10, Dieu dit, « Et moi, je suis l'Éternel ton Dieu dès le pays d'Égypte. Je te ferai encore habiter sous des tentes, comme au jour des fêtes. » Autrement dit, je vais te dépouiller de ta richesse, de tout ce que tu te confies dedans par toi-même, par ta propre force. Tu vas encore habiter sous des tentes. Dieu veut nous emmener dans le renoncement à soi-même. Notre âme doit abandonner, renoncer, abandonner toute force en soi-même, toute confiance dans la chair, ce qui déplaît au Seigneur. Parce qu'il y a un but, parce qu'il veut nous présenter devant lui à Sion. Osée chapitre 5, à partir du verset 14. Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai. J'emporterai et nul n'enlèvera ma proie. C'est étonnant de remarquer, c'est Dieu lui-même qui dit qu'il va déchirer. C'est lui qui va être le lion. C'est lui qui permet le désastre dans notre vie. Peut-être que le diable nous attaque, mais savez-vous que c'est Dieu qui le permet? Pas pour vous détruire, pour vous purifier, pour vous emmener à sa ressemblance, pour que vous abandonniez vos fausses confiances. Tout ce qui lui déplaît, tout ce qui déplaît et attriste son Saint-Esprit. Dieu veut que vous soyez dirigés uniquement par l'Esprit. Il est dit au verset 15 du même chapitre, Osée chapitre 5, verset 15, « Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure. » Autrement dit, la présence de Dieu ne se manifestera pas pendant un certain temps. Ça va être le désert, la sécheresse, comme on le vit aujourd'hui, comme l'Église nord-américaine le vit. La sécheresse spirituelle. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure. Parce que tu dis, je me suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Orgueil, orgueil, tu ne sais pas à quel point tu es malheureuse, misérable, aveugle et nue. Et Dieu dit, verset 15, je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Dieu veut emmener sur son peuple une conscience de ce qu'il est, de ce qui se cache dans son âme. Il est coupable au niveau de son âme. Son âme est sale, son âme a besoin d'être purifiée. Son âme est folle, il y a de la folie attachée à l'âme. Et nous devons laisser la parole de Christ nous en laver, nous en purifier. Et nous devons chercher sa face uniquement. Pas chercher à droite et à gauche, encore chercher en nous-mêmes à s'en sortir par nos propres forces, non. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Osée chapitre 6, verset 1, « Venez !» Ça, c'est la solution. « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. » Il a déchiré, mais il nous guérira. Il n'a pas déchiré pour nous détruire. Il a juste déchiré notre âme pour que son esprit ait un chemin au travers de nous, pour créer un chemin. Mais il veut nous guérir. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. C'était par amour qu'il nous l'a fait. Il corrige ses enfants. Il nous aime comme ses propres enfants, comme ses propres fils. Et l'apôtre Paul va dire dans Hébreux chapitre 12, acceptez ce châtiment. N'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés de cette correction-là. C'est pour votre bien. C'est pour vous faire participer à sa sainteté. Dieu vous aime. S'il ne vous aimerait pas, il vous aurait laissé vous perdre dans votre orgueil, dans votre convoitise. Et vous seriez égaré de plus en plus loin de lui jusqu'à ce qu'il soit obligé de vous envoyer en enfer. Mais Dieu vous aime, il a promis de vous sauver. Alors il vous corrige comme ses propres enfants. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. C'est quoi ces trois jours-là? Le premier jour, c'est le jour où sa grâce s'est révélée à nous. Sa grâce abondante, pleine de bonté, tout ce qu'il a fait pour nous à la croix. Son amour, sa générosité, son pardon, c'est le jour de la grâce. Le deuxième jour, ce sont les sentiers de la grâce. là où la grâce nous emmène, nous entraîne à renoncer à nous-mêmes. Ça, c'est le sentier du désert. La grâce de Dieu nous entraîne, le Saint-Esprit nous entraîne au désert pour un temps de purification, un temps d'épreuve, un temps d'humiliation, pour faire de nous une beauté parfaite, pour présenter à son Père, pour présenter à l'Époux divin, une épouse d'une beauté exceptionnelle, radieuse, resplendissante. Ça, c'est le deuxième jour. Le troisième jour, ce sont les sentiers de la vie. C'est le relèvement. C'est le Christ qui vient lui-même relever ce qu'il a brisé. Parce que oui, il y a eu des brisements, oui, il y a eu des déchirements. Il reste des plaies à panser. Dieu sait qu'il a fait des plaies. Il veut les panser. Là où ça fait mal, Dieu veut penser. Il veut montrer que lui, il est capable de pourvoir lui aussi. Que lui aussi, il est capable de faire du bien. Tu n'as pas besoin de te confier en toi-même ou dans les hommes ou dans tout ce qui se passe dans le monde. Dieu peut faire cela pour son peuple lui-même. Il est assez grand, il est assez fort, il est assez puissant pour le faire. Il veut nous emmener à avoir une confiance totale en lui. Le troisième jour, c'est le jour de la résurrection. Il va nous relever. C'est la vie qui se manifeste dans cette mort dans laquelle notre âme a été conduite. Dieu veut manifester sa vie. Sa vie, c'est sa présence même. Il vient lui-même. Il vient lui-même. Il est la vie. Dans la parole est la vie, et la vie est la lumière des hommes. Osée 6, verset 3, cela continue. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Mettons tout notre objectif, nos pensées, notre but de chercher à connaître l'Éternel. C'est le but. Pourquoi qu'il y a de la détresse? C'est pour nous amener à connaître l'Éternel. C'est le but, c'est pas pour nous détruire. C'est pour qu'on connaisse sa grandeur, sa présence, sa puissance, sa gloire, sa bonté, sa sainteté, sa douceur, sa joie, sa paix. Tout ce qui l'anime lui. Cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore, aussi certaine que le jour se lève, que demain le jour va se lever encore, aussi certain Jésus-Christ va revenir. Il va venir d'abord pour les siens. Il va venir d'abord pour ceux qui ont suivi le sentier, les chemins qui mènent à Sion, le chemin du renoncement. Il va paraître comme une puissance de résurrection pour notre âme d'abord, pour notre esprit, pour notre corps aussi. Il va paraître. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. De même que l'hiver tout semble mort, qu'au printemps tout revit, tout ressuscite, la présence de Christ va être comme ça pour son peuple, pour les saints qui l'auront cherché. Mais ça va être une résurrection à tout niveau. Là où nous avons été humiliés, nous serons glorifiés. Là où nous avons été maltraités, nous serons bénis. Dieu va nous donner consolation. Il va venger les affligés de Sion. Il va lui-même agir pour son peuple. C'est ce que le livre d'Ésaïe nous dit aussi. Ésaïe, chapitre 35, le verset 1. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme une narcisse. Parle de nous. Il parle de ceux qui suivent le sentier de Sion, le chemin de Sion, qui marchent dans le désert, conduits par l'Esprit. Ils vont se réjouir. Leur lamentation, leur pleur va se changer en allégresse. Et ils vont se réjouir. Verset 4 du même chapitre, Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. C'est lui. Il veut venir lui-même au milieu de son peuple. Verset 8 du même chapitre, Ésaïe 35, verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route, qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera, les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion. Avec des chants d'allégresse, une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, les douleurs et les gémissements s'enfuiront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Il y a une route, un chemin qui nous mène à Sion. Le verset 8, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Cela ne nous parle pas de la voie « Accepte Jésus dans ta vie, tu vas être sauvé, né de nouveau. » Tous ceux qui sont nés nouveaux sont sur sa voie-là. Non, il ne nous parle pas de cela. Il nous parle de ceux qui suivent le chemin du renoncement, la voie sainte. Le chemin du renoncement qui mène à Sion. Ceux qui ont accepté que la parole travaille leur vie, travaille leur cœur, jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Et qui ont accepté ce renoncement-là. Parce qu'il faut l'accepter. Il y a beaucoup de personnes qui se retirent. Quand on parle du renoncement, de la mort à soi, ils se retirent. Ils n'aiment pas entendre parler de ça parce qu'ils aiment trop leur propre vie. Ils aiment trop leur richesse, ils aiment trop leur abondance. Ils ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. Dans la version Amplified Bible, ce verset-là est traduit, il y aura là une autoroute, highway. L'autoroute, un chemin tracé. Une autoroute de Sion. Une autoroute sera là et elle sera appelée la voie sainte. C'est la highway de Sion. L'autoroute, une haute route, hein? Mais c'est l'autoroute, c'est une route large où la présence de Christ se manifeste lui-même et nous réjouit. Et je vais finir avec un dernier verset, psaume 84, le verset 5, à partir du verset 5, je vais lire aussi dans la version amplifiée, « Béni soit l'homme dont la force est en toi. » Dans le cœur duquel sont les autoroutes, highways de Sion. Dans le cœur duquel sont les autoroutes de Sion. Ceux qui acceptent de marcher sur la route qui mène à Sion. Béni soit l'homme dont la force est tout entière en toi. Ça, c'est la marque de ceux qui marchent le chemin de Sion. Leur force est tout entière en lui. Ils ont abandonné leur confiance en soi-même. Ils ont été amenés à renoncer eux-mêmes. Ils sont sur la route de Sion. Au verset 6, psaume 84, « Passant à travers la vallée des pleurs, ils en font une place de fontaine. La pluie remplit aussi cette place avec les bénédictions. Ils vont de force en force, de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. » Augmentant en puissance victorieuse, chacun d'eux se présente devant Dieu à Sion. Chacun d'eux, chacun qui va suivre ce chemin du renoncement, qui va passer à travers la vallée, qui va accepter d'être conduit par l'Esprit dans cette place de renoncement, va se présenter devant Dieu à Sion. La place où la gloire de Dieu se manifeste, où la présence de Christ vient combler nos vies, viens guérir toutes nos blessures, viens panser nos plaies, viens manifester son abondance et sa vie, sa présence. Il veut être notre force, il veut être notre richesse, il veut être notre trésor, il veut être le délice de notre âme, celui qui réjouit notre âme. Il est tout, il est la parole de vie. À qui d'autre irions-nous? Il est la parole de vie. C'est lui-même. Il nous est destiné à nous. Nous sommes son corps, nous sommes son épouse. Nous sommes destinés à vivre éternellement dans sa présence. Il est comme le soleil. Dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus de soleil, car c'est lui qui va être notre soleil. Il va être la fontaine de vie, d'eau de vie. C'est lui qui va être notre eau vivante, notre vie. Cela va venir directement de lui, car il est Dieu. Il ne nous semble que des créatures, mais il est Dieu. Il nous a créés pour être à ses côtés comme une épouse. Il nous veut tout entier à lui. C'est ça, Sion. Sion, c'est l'endroit où Dieu désire habiter au milieu de nous. Il veut rassembler ses fidèles qui sont là confiants seulement dans le sacrifice. Leur seule confiance est basée sur ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Ils n'ont plus de confiance dans la chair en eux-mêmes. Ils ont renoncé à eux-mêmes, complètement. La parole de vérité a fait son effet jusque dans le fond de leur cœur. Ils peuvent se présenter à Sion parce qu'ils ont été rendus beaux, pas par leur propre force, pas à force d'effort, par l'Esprit de Dieu. Ils ont été rendus beaux par la grâce de Christ, parce qu'ils ont accepté. Il y a une acceptation. Dire oui, Seigneur, je te suis. Oui, je te suis, je marche à ta suite. C'est un chemin difficile, c'est le chemin du renoncement. Ma chair me dit, ce serait mieux comme ça, mais toi, tu me dis, c'est mieux ainsi. Alors, je te suis et je renonce à moi-même. Oui, il y a un renoncement. Il y a comme un, on pourrait dire, un prix à payer. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est pas par notre propre force. C'est juste d'accepter ce que Jésus a déjà fait pour nous, de prendre par sa main et de ne plus le lâcher. Même s'il y a des épreuves, même s'il y a des humiliations, même s'il y a des persécutions, toutes ces choses-là ne sont là que pour nous amener à Sion. C'est notre promotion, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. Que la paix du Seigneur soit sur vous et que nous puissions tous ensemble se présenter à Sion. Amen.